Et donc il me revient la lourde tâche de conclure ce colloque. Je vais essayer de pas vous enfin, conclure de façon pertinente. Donc la série de bande dessinée sur laquelle je travaille aujourd'hui met en pratique une conception très particulière de l'adaptation et de la transmédialité. Nous savons tous que Holmes est mort en Suisse dans les chutes de Reichenbach en 1893. C'est un épisode qui est relaté par Watson dans une nouvelle qui est intitulée « Le dernier problème ». Doyle a permis à Holmes de renaître en 1903 dans un texte qui s'appelle « L'aventure de la maison vide », texte que Doyle a écrit pour expliquer le retour de son héros et que le public britannique lui réclamait avec insistance. De nombreuses adaptations qui ont sollicité divers médiums ont contribué à faire de cette figure de Holmes une construction mythique et à raviver la mémoire de ses enquêtes pour le public. Ce que propose la série Holmes, créée par Brunschvig et Cécile, publiée depuis 2006 chez Futuropolis, est assez différent de ces adaptations, puisqu'il s'agit non pas d'adapter un texte source existant ou d'inventer de nouvelles enquêtes, mais de relater l'enquête menée par Watson sur le passé de Holmes suite à sa mort en Suisse. La particularité de cette perspective est double. Tout d'abord, nous ne savons pas dans cette série qui est encore en cours de publication, si le retour de Holmes sera avéré ou non, ce qui replace le lecteur contemporain dans la position du lecteur de 1893 qui n'avait aucune certitude sur la reprise du cycle de Conan Doyle. Ensuite, ce choix permet aux auteurs d'adapter non pas un récit existant ou suggéré par les textes de Doyle, mais bien de proposer une nouvelle vision du héros lui-même. C'est en quelque sorte une enquête sur Sherlock Holmes qui est mené ici. Cette spécificité de l'adaptation amène l'œuvre à redéfinir la figure mythique autour de deux dimensions essentielles qui seront ici présentées successivement. D'abord, l'ancrage de cette figure dans un contexte historique et culturel et la mise en place d'un suspense herméneutique typique du genre policier, mais lié ici à la notion de sérialité. Donc ce seront les deux parties de ma présentation. Ces deux dimensions témoignent à leur manière, chacune, de la pertinence du concept d'intermédialité en lien avec le concept d'adaptation, mais on l'a vu sans doute plus large que le concept d'adaptation lui-même. Donc si on commence sur cette question des références contextuelles, on peut tout d'abord considérer cette série à la lumière d'un phénomène de relecture que l'on appelle l'Uchronie. L'Uchronie consiste à créer des univers fictionnels alternatifs fondés sur l'hypothèse que certains événements historiques ne se sont pas déroulés comme ils l'ont fait dans la réalité. Cette hypothèse entraîne des conséquences majeures dans le cadre diégétique de ces fictions. Alors on peut penser par exemple à un roman qui s'appelle La véritable histoire du dernier roi socialiste, de Roy Lewis. Nous serions tentés de considérer la série que nous étudions de la même manière. Que serait-il advenu si Holmes était réellement mort et comment Watson et son entourage auraient-ils réagi et quelles auraient été les conséquences d'une investigation dans le passé de Holmes menée à l'occasion de sa mort? La série se fonde sur la mise en place d'un univers parallèle à celui que nous connaissons, mais traité sur un mode réaliste. Ce parti pris va jusqu'à intégrer dans la série des personnages que le lecteur contemporain situe d'ordinaire sur un autre plan de la réalité. Ainsi, le scénario fait intervenir Conan Doyle lui-même comme agent littéraire de Watson aux côtés de ce dernier dans la négociation qu'il mène auprès du magazine Strand pour faire paraître son dernier texte. Ce recentrage uchronique du récit témoigne de la volonté des auteurs de produire une adaptation qui soit centrée sur une autre vision de la figure de Holmes telle qu'elle nous est familière. En d'autres termes, il s'agit de redéfinir une figure mythique. Ce projet s'articule également à une volonté de produire une version réaliste de la diégèse ainsi reconstruite. Tout doit être vraisemblable, même si le point de départ est différent. Holmes est bel et bien mort. Ceci afin de justifier les hypothèses formulées sur le passé du détective qui auraient effectivement pu se dérouler selon le récit présenté. C'est la raison pour laquelle de nombreuses références historiques interviennent dans le récit. C'est le cas notamment dans le dernier volume qui relate une partie de la vie passée de la mère de Holmes en lien avec Florence Nightingale, la célèbre infirmière britannique à l'origine de nombreux mouvements populaires lors de la guerre de Crimée. Ce choix scénaristique conduit à doublement mettre en scène la contextualisation historique de l'adaptation. d'abord par la mention d'un cadre général cohérent avec la période considérée, donc la fin du XIXe siècle, et ensuite par l'intervention d'un personnage historique réel que l'on voit rencontrer un personnage de fiction. Il s'agit du personnage de Wiggins, un franc-tireur de Baker Street, c'est-à-dire un de ces gamins des rues qui venait en aide à Holmes dans les nouvelles. Le but de cette contextualisation est très spécifique, puisque dans la plupart des œuvres qui mettent en scène ce type de rencontre, on a toujours un jeu fictionnel. C'est-à-dire qu'en général, on fait rencontrer à Holmes, Dracula, Mr. Hyde, Jacques l'Éventreur, bon, même parfois Hitler. Chez Cecil et Brunswick, il ne s'agit pas de jouer avec les références historiques et fictionnelles, mais de les défamiliariser. Si nous revenons sur la rencontre donc, entre Wiggins et Florence Nightingale, les rôles lors de cette rencontre sont brouillés. Wiggins ne reconnaît pas Nightingale et semble la prendre pour une domestique. Ce trait est caractéristique du traitement des figures mythiques dans l'œuvre. Elles sont redéfinies de sorte qu'on ne les reconnaît pas directement. Alors, je vais avancer un petit peu, donc un exemple du réalisme. Donc cette stratégie de défamiliarisation poursuit deux objectifs. Il s'agit de confronter le lecteur à des figures familières, mais de déplacer le cadre de cette rencontre pour créer une surprise, un nouveau contexte de présentation des personnages. C'est Holmes que nous retrouvons dans la série, mais de façon inédite, un Holmes vu de façon réaliste et à la fois décalé de ce que nous apprenons, en raison de ce que nous apprenons sur lui et sur son histoire passée. Alors un exemple rapide, on apprend que Moriarty était en fait le précepteur de Holmes et que celui-ci a été, blessé lors d'une altercation avec Holmes et que toute l'identité de Moriarty était reconstruite faussement dans les récits de Doyle. Autre exemple de cette recontextualisation historique, dans le cycle, dans cette série, Holmes est censé avoir passé son enfance à Poe, puisque dans les textes, Doyle explique qu'il était de la famille du peintre français Horace Vernet. Et donc, toute une partie de l'enquête sur Holmes va se déplacer en France à Pau, et donc va encore une fois consister à historiciser le personnage de Holmes. Donc l'adaptation invite le lecteur à considérer Holmes comme personnage historique et non fictionnel, mais une part essentielle du scénario repose sur la mystification dont Holmes s'est rendu coupable en faisant croire à l'existence d'un Moriarty qui, selon son frère Mycroft, n'a jamais existé. Donc je vais essayer maintenant de passer à une deuxième partie qui va examiner non seulement le contexte culturel d'adaptation, mais également la manière dont cette adaptation repose sur des processus formels. Alors, je passe assez rapidement sur la perspective qui est choisie dans la série autour de cette question de adaptation. Il s'agit non pas de conforter le lecteur, mais plutôt de le placer dans ce que Barthes appelle une situation de malaise en lien avec ce qu'il appelle le texte de jouissance, c'est-à-dire un texte dans lequel nous perdons nos repères. Nous savons donc, je reprends ici, nous savons que le suspense herméneutique est un fondement essentiel du genre, puisque la forme narrative policière repose sur la rétention du récit sur la rétention par le récit d'une solution à la situation criminelle. Donc cette rétention est justifiée le plus souvent par la présence d'un filtre narratif, c'est en général Watson. Alors pour le dire très simplement dans les termes d'un critique, ce n'est qu'en parlant de Holmes sans le comprendre qu'on peut le créer. Donc ma question ici, ça va être de savoir comment cette formule est transposée dans la bande dessinée. Cette formule visant à la rétention de l'histoire criminelle par le récit est transposé dans la série de façon tout aussi propre au cinéma qu'à la bande dessinée par l'utilisation d'un passage régulier d'un lieu à un autre de l'histoire, ce qu'on nomme au cinéma le montage alterné. Tandis que Watson part en France enquêter sur le passé de Holmes à Pau. Wiggins, hein, l'ancien franc-tireur de Baker Street, enquête auprès d'un certain Dr. Parks à Londres sur le passé de la mère de Holmes. De la même manière, le récit à l'intérieur de ces alternances d'énonciations et d'histoires se développe en un certain nombre de retours en arrière qui donnent lieu à un traitement graphique différent tout au long de la série, puisque les épisodes du passé sont colorisés en teinte brune sépia qui contraste, comme vous voyez ici, avec le gris de la narration au présent. Nous pouvons voir un exemple de cette technique ici, lorsque Wiggins s'entretient avec l'infirmière au service du Dr. Parks et examine une photographie qui met en scène le Dr. Parks et Florence Nightingale. Et donc, c'est une photo qui renvoie au passé et donc qui est colorisée dans cette teinte brune qui tranche avec le gris du présent. Cette technique est reprise tout au long de la série et crée parfois un effet de surprise, notamment au début du volume 4, lors de l'épisode au cours duquel le Dr. Parks rencontre Florence Nightingale à Scutari, sur la côte turque lors de la guerre de Crimée. Ce qui est remarquable est la manière dont cette alternance de récits, hein, c'est encore une fois ce montage alterné, est pratiqué, puisque la représentation du montage alterné, ou la présence de ce montage alterné, est révélée uniquement a posteriori, c'est-à-dire que nous avons d'abord ce témoignage, puis nous comprenons que ce témoignage est relaté par un personnage qui est Wiggins, lui-même qui est en train d'écrire à Holmes dans une lettre que, qui est en train d'écrire à Watson dans une lettre que Watson est en train de lire à Poe. Donc je passe un petit peu plus vite ici. Il s'agirait ici donc en fait d'une sorte d'adaptation du suspense policier. On aurait un retard volontaire dans la révélation de la véritable nature de l'énonciation. Cependant, deux éléments viennent teinter cette narration d'ambiguïté. Tout d'abord, le choix de la couleur, ou plus précisément du dégradé de brun, qui est un choix opéré pour ce qui concerne les scènes du passé, s'avère problématique dans le volume 2, notamment dans la scène où le personnage de la mère de Holmes, la future femme donc de Sija Holmes, observe le tableau qui trône dans la cage d'escalier de la demeure de ses parents. C'est un tableau qui représente censément une scène de bataille napoléonienne, et nous sommes déjà donc dans un contexte passé en relation avec l'enquête de Holmes et Wiggins. Cette scène est colorisée en teinte sépia brune, hein, c'est ce que vous voyez autour. Mais la scène représentée dans le tableau est colorisée en teinte qui inclut du bleu, du blanc et du rouge. Il semble donc que plus le récit s'oriente vers le passé, plus il prend les tons de la vie réelle, du gris au brun, à la couleur finalement. Par cette progression surprenante, comme si le retour en arrière nous faisait pénétrer non pas une reconstruction du réel, mais plutôt la texture authentique du réel, le dispositif qui est choisi met en perspective une problématique touchant à la représentation, qui ne semble atteindre à la vérité que lors de brèves incursions dans le passé, mais qui se caractérise le plus souvent par une monochromie symbolisant le difficile effort de capture du réel. Ce dispositif spécifiquement graphique colore la narration pour la charger d'une attente particulière chez le lecteur qui n'attend plus uniquement la solution de l'énigme criminelle dans le récit final, comme dans le modèle littéraire initial, mais qui peut voir surgir cette bribe de réalité venue du passé à tout moment, incluse dans une narration qui comprend des niveaux et des temporalités multiples. Donc ces niveaux sont représentés par ces changements de couleur. Une autre conséquence de ce montage alterné dans la série est à rattacher à la pratique du chant contre chant au cinéma. Le chant contre chant, tout comme le montage alterné, suppose l'établissement d'une tension entre deux points d'origine du regard et le choix inéluctable entre ces deux points d'origine. Lorsque nous suivons un récit dans un montage alterné, l'autre récit nous apparaît nécessairement investi du mystère, du hors-champ et de l'absence. De même qu'une scène de dialogue entre deux personnages tournés en champ contre champ renvoie dans le hors-champ un personnage objet observé par un autre personnage sujet qui constitue le point d'origine du regard. C'est ce que la série Holmes exploite, non seulement par ce dispositif du montage alterné, mais également par certaines scènes qui thématisent l'emploi du hors-champ comme l'expression d'une insuffisance constitutive du récit de Watson. Ainsi, au tout début du volume 3, nous suivons un dialogue étrange entre Watson et Holmes, hein, c'est celui qui est ici suggéré, alors que Watson vient de se recueillir sur la dépouille de son ami. Et cette scène étrange trouve bientôt son explication dans le fait qu'elle constitue, comme cela est révélé a posteriori, un rêve, ou plutôt un cauchemar, fait par Watson lors du voyage en bateau qui le mène à Pau. Le rôle du hors-champ apparaît clairement lorsque Watson se réveille de ce cauchemar et hurle le nom de Holmes au moment précis où Holmes sort du cadre de la case. Cette utilisation très dramatique du hors-champ vise à exprimer la dépendance totale de Watson envers l'image et envers le souvenir de son ami, ainsi que la limitation excessive que représente le filtre subjectif appliqué à l'histoire par le récit du personnage. Au final, les procédés formels examinés ici se concentrent autour d'une notion clé qui est celle du hors-champ cognitif comme source du suspense herméneutique. J'entends ici non seulement la pratique graphique du hors-cadre, mais plus généralement l'ensemble des dispositifs qui renvoient aux signaux présentés par l'œuvre d'une incomplétude dans la représentation. L'alternance des récits, par exemple, qui dit l'impossibilité d'une vision globale, la présence des couleurs réservées à la figuration d'un passé méconnu et la suggestion du hors-cadre comme signe d'une irréductible incompatibilité entre le récit et ce qu'il souhaite montrer. À travers ce dispositif très cohérent, la série se construit autour d'un échec relatif du dire face au réel, échec qui était déjà bien sous-jacent au fondement des récits de Conan Doyle. Alors, je n'aurai pas le temps de parler rapidement de cette question de la sérialité. Très, très rapidement, le texte exploite cette question de la sérialité avec une sorte d'utilisation relativement classique des cliffhangers, mais qui sont révélés notamment comme une sorte de référence au modèle initial de publication des textes. Alors il faut voir quand même qu'ici il y a une distinction entre la publication originelle, puisque vous savez que dans les textes originaux, le narrateur, le personnage de Watson, raconte les enquêtes toujours après coup. On est toujours en narration ultérieure. Or ici, on est en narration simultanée, c'est-à-dire que nous suivons l'histoire au moment où elle se déroule, et donc nous n'avons aucune certitude quant à la survie du personnage principal. Donc c'est quelque chose qui à la fois est une référence mais une déformation du texte source. Pour terminer, ce qu'il s'agit d'adapter dans la série des Holmes, hein, ce n'est finalement pas un corpus, mais c'est un mythe, voire une figure culturelle. Parmi ces figures, nous avons vu que la personnalité du détective est réinterprétée en tant que lieu d'une confrontation entre irrationalité et désir d'ordre. Bon, je n'ai pas trop eu le temps de vous montrer ça, mais take my word for it. Bien sûr, cette réinterprétation était déjà latente dans le texte source, hein, d'où l'exemple de la citation que je n'aurai pas le temps de lire, qui à maintes reprises laisse entrevoir la tentation de l'abattement et de l'abandon chez Holmes, hein, dans sa tentative de rétablir l'ordre. Il est clair que la vision d'un Holmes divisé et en proie au doute est également au fondement d'une relecture très courante de la figure créée par Doyle dans notre culture contemporaine. Il suffit de penser simplement à la série Sherlock de la BBC. Cependant, la série de Cecily Brunswick fait preuve d'une originalité certaine par la manière dont elle choisit de redéfinir la figure mythique du détective, non pas seulement en développant celle-ci selon des perspectives inédites, mais par le choix qui est fait d'inclure une relecture globale de notre représentation du monde victorien à travers cette relecture du personnage. Cette relecture de l'image culturelle entre dans le champ de ce que Linda Hatchian définit comme une relation intertextuelle élargie avec l'œuvre adaptée. Il ne s'agit pas de retrouver le déroulement d'un récit source, mais de mettre au jour les liens de ce récit initial avec l'époque contemporaine où se pratique la relecture, ou bien avec des dimensions jusque-là insoupçonnées de l'univers diégétique initial. Le Holmes de cette série nous amène de façon inattendue à rencontrer Florence Nightingale et à travers elle certaines problématiques, par exemple sociales et environnementales contemporaines. Dans cette perspective, on peut dire que la série renégocie l'œuvre originale dans les termes de la culture source pour faire apparaître ses liens avec une culture cible. Il s'agit donc bien d'une variation culturelle qui vise à mettre au premier plan certaines préoccupations caractéristiques de la culture pour laquelle l'œuvre est adaptée. Je vous remercie.